بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. شيخ، aujourd'hui on va voir les quelques versets qu'on a lus, et ce sont là des versets extrêmement importants, extrêmement, je dirais pas complexes, mais des versets qui contiennent tellement de sens, qui ont été commentés d'une telle manière par différents mufassirines, que ce soit Ibn Kathir, que ce soit Ar-Razi, que ce soit d'autres mufassirines. Ils ont fait des commentaires tellement impressionnants sur ces versets que je pense que si on devait développer uniquement depuis Fa'ammal Insanu jusqu'à Rabbi Ahanan, c'est-à-dire avant qu'Allah balla tukrimun al-yatim, ça pourrait prendre une soirée. Tellement ces deux versets du Coran sont riches de leçons, et si un musulman a compris le sens de ces deux versets, ben sa vision de ce bas monde, sa vision du dunya et sa vision, sa perception du akhirat est totalement changée. Taïb. Mais avant de voir ce verset un peu long, je ne sais pas, est-ce que la dernière fois on avait parlé de Pharaon, on avait parlé des différents peuples de Had, de Thamoud, et je pense qu'on avait abordé brièvement que Pharaon aussi a été détruit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait expliqué que Pharaon avait une armée exceptionnelle. Il y avait des combattants, des soldats, il y avait également des gens compétents en domaine politique qui donnaient les conseils qu'il fallait à Pharaon, mais il y avait également des sorciers, il y avait également des sahirs, des grands sorciers, certainement les plus grands sorciers que le monde ait jamais connus. Toutes ces personnes étaient au service de Pharaon. Et Pharaon, c'était une des seules personnes au monde qui a osé dire « Ana rabbukumul a'la ». Pharaon, il a osé dire que moi je suis votre Dieu, le plus élevé, le plus fort, le plus grand. Et Pharaon avait dit en regardant, il avait même dit aux gens, Ma alimtu lakum min ilahin ghayri, en ce sens que je ne connais pas d'autre Dieu pour vous à part moi. Des paroles vraiment de kouf, hein. Il n'y a pas un plus grand kafir certainement que Pharaon sur cette terre. Il avait dit, Am ana khayr, enfin pas mal, on ne va pas citer tous les versets de Pharaon. Quand il avait regardé l'Égypte et le Nil, alayhi salim mulk misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahtiha fala tubsirun, vous voyez pas, toute l'Égypte ça m'appartient, regardez le Nil qui coule sous mes pieds, ça aussi c'est en mon pouvoir. Pharaon était vraiment persuadé qu'il était Dieu, et Allah subhanahu wa ta'ala a détruit Pharaon avec toute son armée, comme l'histoire de Pharaon et de Moussa alayhi salam, ce sont là des histoires que nous connaissons déjà, et c'était une leçon pour les Quraysh et pour tous ceux qui vont venir jusqu'au Qiyama. Sachez que si une personne, il se rebelle, si une personne n'accepte pas l'ordre d'Allah, la divinité d'Allah et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si une personne s'obstine et s'entête à combattre Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'Allah ta'ala est capable de les terrasser, comme Allah ta'ala a terrassé le peuple de Had, le peuple de Thamoud et le peuple de Pharaon, dont on ne retrouvera certainement plus l'équivalent jusqu'au Qiyama en termes de force, en termes de pouvoir. Si on regarde le contexte de l'époque, c'était là des peuples extrêmement puissants par rapport aux autres populations, et on ne retrouvera jamais des populations qui émergent à un tel point à n'importe quelle époque, et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala avait détruit. Il y a une petite latifa, il y a une petite hikmat également dans l'histoire de Pharaon. Vous savez que les sorciers l'avaient annoncé qu'il y aura un enfant qui sera la cause de sa perte. Vous connaissez l'histoire. Pharaon avait ordonné qu'on tue tous les enfants, tous les garçons qui vont naître. Quand il y a des naissances, si c'était un garçon, donc un de sexe masculin, donc on devait tuer cet enfant. Et donc, il avait pris toutes les asbabs. Il savait que ce que les sorciers avaient annoncé, ça allait se réaliser. Donc, il a utilisé toutes les intermédiaires, tous les asbabs possibles, pour que cette chose ne se produise pas. Mais ce n'est pas lui que si Allah a déjà décrété quelque chose, l'humanité entière peut se réunir pour aller à l'encontre de ce qu'Allah a décidé, personne ne pourra le faire. Non seulement Allah Ta'ala a décidé que cet enfant-là, Moussa alayhi salam, puisse naître sans que Pharaon ou alors son armée ne puisse le tuer, mais en plus, Allah Ta'ala a décidé que cet enfant
après sa naissance, va grandir et va être nourri de la main de Pharaon. C'est-à-dire, la propre personne qui va causer sa perte, hein, Pharaon est en train de l'élever, est en train de lui donner l'éducation, est en train de lui donner à manger dans son palais. Donc, hein, les gens, ils ont la yakin, la certitude qu'avec les asbab, avec les intermédiaires, on peut faire des choses ou on peut défaire des choses. Et Allah Ta'ala a montré à Pharaon, tout comme l'histoire d'Ibrahim a.s. lorsqu'ils ont fait ce feu gigantesque, ils ont jeté Ibrahim dedans en pensant que ce feu allait le tuer. Mais Allah Ta'ala a montré à ces gens que non seulement le feu n'a pas atteint Ibrahim, le feu a été, comme Ibrahim a.s. décrit, les plus beaux moments de sa vie. Les moments les plus agréables de sa vie, c'était lorsqu'il était dans ce hadith. Et en plus, ce feu est devenu un rempart entre Ibrahim a.s. et ses ennemis. Il voulait détruire Ibrahim par ce feu, et comme il était bien, Allah Ta'ala a rendu ce feu agréable et doux pour Ibrahim a.s. Maintenant, les koufars ne peuvent même plus récupérer Ibrahim pour le tuer, parce qu'il y a ce feu qui les brûle eux, mais qui est froid et agréable pour Ibrahim a.s. Donc les asbab, les intermédiaires, les créatures, tout ça c'est dans les mains d'Allah. Personne n'est capable de faire quoi que ce soit allant contre ce qu'Allah a décidé, tout comme personne ne peut pas faire quelque chose, ne peut pas s'apporter lui-même un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décidé et n'a pas prescrit dans le taqdir. Donc ça c'était, je pense, un point qu'on avait oublié de souligner la dernière fois. Donc, pour revenir donc au verset, donc le verset qu'on a lu au début, فَأَمَّا الْإِنسَانُ, alors, la traduction en français, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant, et dans d'autres traductions, en étant généreux avec lui, et en le comblant de bienfaits, il dit, c'est-à-dire, cet homme dit, mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, quand Allah l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a avili. Mais non, c'est plus... Déjà, c'est suffisant, c'est deux linnas, c'est deux versets du Coran. Alors, on va voir trois tafsirs différents concernant ces deux ayats. Depuis, on a pu faire la suite depuis qu'Allah, khair wa ni'ma, autrement, ces deux versets sont amplement suffisants pour tenir, mashallah, une nuit, tellement ces versets sont remplis de hikmat, remplis de sagesse. Taïb. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle que l'être humain, parfois, il peut vivre des situations où il est heureux. Allah ta'ala peut combler de bienfaits une personne, tout comme parfois Allah ta'ala peut envoyer des difficultés, des calamités sur une personne. Donc dans le dunya, soit on a des choses bien qui nous arrivent, soit on a des choses affligeantes qui peuvent nous toucher. Comme Allah ta'ala dit au Coran, « وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً » Mais ce qu'on doit bien comprendre, c'est que tant que, également le bien comme le mal qui nous touche, les deux ça provient d'Allah, première chose. Et deuxièmement, lorsqu'Allah Ta'ala nous accorde quelque chose de bien, ou qu'Allah nous éprouve par une difficulté, il y a une hikmat, une sagesse, cela est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons bien, nous savons que lorsqu'on est éprouvé, on a une difficulté, une maladie ou autre chose, c'est une épreuve de la part d'Allah. Mais ce que nous oublions parfois ou que nous ne savons pas, c'est que également, lorsqu'il nous arrive quelque chose de bien, lorsqu'Allah Ta'ala envoie un bienfait, par exemple, on a eu un meilleur travail, on a eu augmentation de le salaire, ou alors il y a eu n'importe quel événement qui nous procure de la joie, ça aussi, c'est une épreuve de la part d'Allah. C'est pour ça que le terme qu'Allah Ta'ala a utilisé, c'est fitna. Quand on utilise fitna, c'est quoi? En général, on utilise fitna pour quelque chose de mauvais. Fitna, c'est quelque chose qui va nous faire du tort. Non, le bien qu'Allah Ta'ala accorde à une personne également, c'est un fitna. Quand Allah Ta'ala éprouve quelqu'un, Allah Ta'ala attend la réaction de cette personne face aux difficultés. Et quand Allah Ta'ala comble de bienfaits quelqu'un, Allah Ta'ala attend la réaction de cette personne dans la joie, dans ses moments de bonheur. Taïb. La différence, c'est que lorsqu'une personne a été éprouvée par la pauvreté, par exemple, elle devra faire preuve de patience et le jour de Qiyamah, elle sera rétribuée. Tandis que la personne qui a été comblée de bienfaits, de richesses ou de pouvoir ou je ne sais quoi, elle va certes être shakir, elle va être reconnaissante. Cette personne va être reconnaissante vers Allah en faisant le shukr bil lisan, également à travers ses actions. Mais à la différence du pauvre, ce qu'il aura eu avec Allah, il devra en répondre le jour de Qiyamah. Je vais expliquer ça récemment, montrer que plus on a eu de bienfaits de la part d'Allah, ben, ça c'est logique, plus on aura à répondre devant le tribunal d'Allah à propos de ses bienfaits. C'est tout à fait logique qu'une personne qui a vécu dans tout le confort, dans l'aisance, avec beaucoup de biens, beaucoup de ni'amat, beaucoup d'énormes revenus, cette personne aura plus de comptes à rendre le jour de Qiyamah que la personne qui, elle, n'avait strictement rien. Ça, c'est dans la hikmat, dans la sagesse et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et donc, un être humain, dans la vie du dunya, soit il va vivre des joies heureux ou des joies malheureux, et parfois ça alterne entre les moments de bonheur et les moments de malheur. Sauf que pour le musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Ajaban li amri al-muslim » que vraiment, la situation du musulman est exceptionnelle. C'est quoi? Qu'est-ce qui distingue le musulman par rapport à ces deux situations? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique dans le hadith que lorsque le musulman est éprouvé par Allah et qu'il fait preuve de patience, alors on comprend que ça c'est un ibadat aussi. Le musulman qui est éprouvé par Allah et qui fait preuve de patience, Allah Ta'ala apprécie et récompense cette personne pour son sabr. Mais une personne qui a été comblée de bienfaits et qui est reconnaissant, qui remercie Allah, ça aussi c'est des récompenses. Parce que être reconnaissant, al-shukr, shukr al-ni'ma, c'est un ibadat. Et al-sabr al-balwa, faire preuve de patience dans les difficultés, c'est également un ibadat. Donc, quelles que soient les situations que nous allons vivre, parce qu'il n'existe pas quelqu'un qui depuis sa naissance jusqu'à la mort, il a le bonheur. Tout comme il n'existe pas quelqu'un qui depuis sa naissance jusqu'à la mort, il a le malheur. Il y a des hauts et des bas, comme on dit. Qu'il y ait des hauts ou qu'il y ait des bas, nous avons un comportement spécifique à adopter. Quand il y a des hauts, quand ça va, on remercie Allah et Allah nous en rétribue. Quand ça va pas, il y a des soucis, on fait preuve de patience et on s'en remet à Allah et Allah nous rétribue. Et le prophète apprécie ce hadith que ça c'est khas lil mu'min. Ça c'est spécial pour le mu'min qui a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Autre chose également avant de commencer les trois tafsirs. Taïb. Et lorsqu'Allah ta'ala donne des bienfaits à une personne, ou lorsqu'Allah Ta'ala décide d'éprouver quelqu'un, si on reste dans l'exemple de la richesse. On avait déjà cité ce hadith dans lequel le Prophète avait expliqué que pour certaines personnes, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que cette personne vive dans la richesse et qu'elle meure riche. Parce que si cette personne était pauvre, elle aurait fait tel péché et elle aurait pu dire telle parole qui aurait annulé son iman ou qui aurait fait atteindre le kufr à cette personne. Et pour d'autres personnes, Allah Ta'ala a décrété. Et Allah, il sait mieux que telle personne va vivre de la pauvreté et elle mourra de la pauvreté. Parce que si cette personne avait eu des biens, si elle avait eu des richesses de ce monde, elle aurait fait tel péché avec son argent. Ça, c'est le ilm al-ghayb. Ça, c'est la science de l'invisible qu'Allah seul détient. Ce qu'on avait expliqué sur le destin, Allah Ta'ala ici, ma kana wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Allah Ta'ala il connaît le passé, ça c'est clair. Allah Ta'ala il connaît le présent. Et Allah il connaît ce qu'il n'a pas décrété de le présent. Si cela avait existé, comment cela aurait été? C'est-à-dire que si Allah avait décidé que cette personne, au lieu d'être pauvre, cette personne, elle aurait été riche. Par exemple, telle personne, au lieu d'habiter aux îles Comores, dans la pauvreté, ou à Madagascar, si Allah avait donné à cette personne la naissance à Paris, ou à New York, d'accord, avec fortune, avec tout ce qu'elle veut, et cette personne n'aurait pas vécu comme cette personne vit à Madagascar, cette personne aurait été riche certainement, mais avec sa richesse, cette personne aurait été dans le zina, dans le kham, dans l'alcool, etc. Elle fait tel péché, et en finalité, elle serait une personne du Jahannam. Donc Allah, il connaît le destin de chacun et comment chaque personne, selon sa nature, peut réagir face à telle ou telle tentation. D'où la hikmat d'Allah, de faire que certaines personnes aient les moyens de ce dunya et d'autres n'aient pas les moyens dans ce dunya. Ça, c'est une des hikmat d'Allah dans le taqsim al-rizq, dans la distribution des biens, des revenus. Taïb. Alors, on commence par le premier tafsir. Tafsir d'Ibn al-Qayyim, al-Jawzi rahimahullah, il dit que فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Cette première personne dit que lorsque la personne elle a eu des biens de la part d'Allah, il dit que mon Seigneur m'a honoré. Mais وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ. Mais par contre, Hein, lorsque la personne est éprouvée, lorsqu'Allah Ta'ala il retient les ni'amat, il retire et il retient les ni'amat, alors cette personne dit Allah m'a avili, c'est-à-dire que Allah m'a déshonoré. Alors il explique de ce tafsir que, et puis Allah dit qu'Allah, que jamais ce n'est pas comme ça. Il explique que il ne faut pas croire qu'une personne qui a des biens de la part d'Allah, c'est forcément quelqu'un qui est aimé et élu par Allah. Et qu'une personne qui est pauvre ou qui a des difficultés, c'est quelqu'un qu'Allah n'aime pas et quelqu'un qu'Allah a décidé de rabaisser sur ce dunya. Dit parce que Allah Ta'ala, il peut tout autant éprouver par les difficultés ou alors éprouver par les bienfaits, par les ni'amat. Et qu'on comprenne bien que la personne... Il faut qu'on comprenne bien que ce n'est pas toutes les personnes qui ont eu des bienfaits de la part d'Allah. Il faut comprendre que c'est assez complexe, c'est assez philosophique en même temps. Il faut bien comprendre que toutes les personnes qui ont eu des bienfaits de la part d'Allah ne sont pas tous aimées par Allah. Parce qu'il y a bien des kafirs, ceux qui ne croient pas en Allah, qui sont immensément riches, immensément célèbres, immensément respectés. Et on trouvera des bouzrouks, hein, des gens pieux, des ulama, des gens miens salihin, qui sont éprouvés par la maladie, par la pauvreté et par la richesse. Donc c'est un faux mécanisme que de se dire que si on a, c'est qu'Allah m'aime, si j'ai pas, c'est qu'Allah Ta'ala, il ne m'aime pas. Taïb. Elle dit que le vrai ikram, quand Allah Ta'ala, il aime quelqu'un, la vraie chose qu'Allah, il donne à cette personne, c'est pas les biens, c'est pas la richesse. Sachant que plus qu'on a, plus on aura à répondre. Donc c'est pas forcément un cadeau. Je ne dirais pas que c'est un cadeau empoisonné, on n'exagérait pas comme ça, mais plus Allah, il vous donne, ben Allah, il sait que vous aurez beaucoup plus de questions à répondre. Donc c'est pas forcément du cadeau à 100%. Et Ibn Qayyim, rahimahullah, à la fin dit que si vraiment on veut rechercher quels sont les critères de préférence, comment est-ce qu'on connaît que lui, il est aimé par Allah, et lui, il n'est pas aimé, ou il est moins aimé par Allah, regardez, est-ce que Allah lui a donné un iman qawi? Est-ce que Allah le choisit pour les bonnes actions? Est-ce que Allah l'a choisi pour avoir le ilm du Coran ou le ilm du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si Allah il choisit quelqu'un pour faire son ibadat, c'est que réellement Allah Ta'ala aime cette personne. Et si Allah Ta'ala a décidé qu'une personne s'éloigne de son dîn, c'est qu'Allah Ta'ala n'a pas accepté cette personne. Et comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man yuridillahu bi khayra yufaqqihu fi dîn » Celui pour qui Allah il veut du bien, Allah lui donne la compréhension, le fiqh, la science religieuse. Donc ça c'est le véritable critère, alors que de nos jours, dans cette société de consommation, on regarde toujours le riche, une personne peut ne pas avoir de bonnes manières, une personne peut avoir une très mauvaise éducation, ou peu d'instruction à l'école, mais si cette personne est riche, elle sera respectée. Ça c'est le critère de réussite dans ce dunya. Que la personne ait acquis ses biens à la sueur de son front, ou alors par héritage de son père, il n'a rien fait, il était assis, son cas, il a gagné l'héritage. Ou que la personne ait acquis sa fortune avec des fraudes, des pots de vin, ou alors des détournements d'argent, à partir du moment où la personne sera riche, roulera dans une grosse voiture, et que la personne aura son yacht, et la personne sera vue en compagnie de tel grand artiste, grand acteur, grand je ne sais pas quoi, c'est le izzat. Ça, c'est la conception de la réussite dans notre époque, et c'était même à l'époque du Prophète sallam, des Arabes, hein, celui qui est riche, cette personne, a réussi. Donc, dans ce verset, Allah Ta'ala fait bien comprendre que ne pas croire que quelqu'un qui a des biens de la part d'Allah, c'est forcément une personne qu'Allah aime quand elle l'a comblé de bienfaits. Bien au contraire, et on va voir à travers le tafsir d'Al-Fakhr Razi, rahimahullah, qu'Allah il explique, qu'à travers son tafsir, il explique bien que, bien au contraire, ça peut être quelque chose de néfaste dans la plupart des cas, Wallahu musta'an, pour cette personne. Et ça c'est Ibn Kathir rahimahullah de ce tafsir dit également, il cite ce verset, ça c'est un verset ajib, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khayrat bal la yash'urun. L'erreur que certaines personnes faisaient, ils croyaient que ben ces gens-là ils ont eu des biens, l'argent et ils ont des enfants, ça c'était un izzat pour les Arabes d'avoir des garçons, des mâles, d'accord, dit que ils croyaient que ils ont eu de l'argent, ils ont beaucoup d'enfants, beaucoup de garçons. Ils croyaient que c'était izzat, c'est suffisant. C'était des personnes élues. Allah Ta'ala fait bien comprendre que c'est pas parce qu'ils ont eu telle ou telle chose qu'ils sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le tafsir d'Ibn Qayyim. Il faut bien comprendre quels sont les critères, hein, qu'on comprenne bien, qu'on ne se trompe pas. C'est pas parce que quelqu'un a des bienfaits ou des richesses que cette personne a été élue et est aimée par Allah. On répète encore une dernière fois. Et c'est pas parce qu'une personne est pauvre, malade ou éprouvée que cette personne a été na'udhu billah oubliée ou délaissée par Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Autre tafsir de ce verset, c'est un tafsir un petit peu plus complexe, un peu plus recherché. Inch'Allah, dans le tawfiq de faire passer le message. Le tafsir dit que certaines personnes, dans les deux cas de figure, lorsque la personne a eu un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne dit, on dit en arabe avant parce qu'on ne peut pas retrouver le même sens en français, هذا إكرام من الله لنا لأننا أهل لذلك. Lorsque j'ai un bienfait de la part d'Allah, je dis comme ça pour qu'on comprenne bien, que Allah m'a donné parce qu'Allah ta'ala il connaissait mes qualités. Allah m'a donné parce que je le méritais. C'est-à-dire que la personne ne se contente pas de dire, elle aurait dû dire que Allah m'a donné. Ça c'est, tout revient à Allah. Moi je n'ai rien fait là-dedans. Ça c'est ni'mat de la part d'Allah. Dit non, certaines catégories de personnes, lorsqu'ils ont eu la richesse ou telle chose, pour eux c'est Allah m'a donné parce que Allah il voit qu'est-ce que j'ai comme qualité. Nous, alhamdulillah, Allah donne à nous. C'est-à-dire que nous, une famille noble ou autre chose, on mérite, Allah nous a accordé. Tandis que quelqu'un qui n'a pas eu, si quelqu'un n'a pas eu, il va dire que Inna Allah Ta'ala zalamani fa ahanani wa lam yarzuqni kama razaqa fulana. Et s'ils n'ont rien eu ou ils ont eu des difficultés, là la personne va dire qu'Allah m'a opprimé ou qu'Allah ne m'a pas donné comme il a donné à l'autre personne. Allah a favorisé telle personne et il m'a privé par rapport à l'autre personne. Donc ce sont là deux tafsirs différents, un peu complexes, c'est assez technique, mais dans le deuxième cas, ce genre de personnes existent aussi, Wallahu musta'an. Des gens que lorsqu'ils ont eu des bienfaits, ils croient qu'ils le méritent. Allah m'a donné parce que je mérite. Non! Si Allah il donne, c'est qu'Allah a eu pitié de vous, il vous a donné. Ou Allah a voulu vous élever en vous donnant telle chose. Et peut-être que Allah, en vous donnant telle chose, il est en train de vous éprouver pour voir comment vous allez réagir face à cette épreuve. Taïb? Donc, une réaction erronée que de se dire qu'Allah m'a donné parce que je mérite. On ne mérite rien, mes chers frères. On ne mérite strictement rien. Dans le verset Coran, il dit que voilà où يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, si je ne me trompe pas, بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ. En ce sens que si Allah Ta'ala, il devait rétribuer ou réprimander, si Allah Ta'ala, il agissait avec nous au coup près, que chaque erreur Allah nous punissait, alors il n'y aurait plus un être vivant sur cette dunya. Tellement nous faisons de péchés et tellement nous sommes ingrats. Nos ibadats ne valent presque rien, mes chers frères. Il y a des gens comme ça, ils viennent sur les cinq namaz, ils ont la barbe, alhamdoulilah, et ils se croient vraiment des anges ou des êtres supérieurs, et ils se croient en droit de regarder de haut les gens qui ne fréquentent pas la mosquée. C'est vrai que, alhamdoulilah, celui qui a pu faire salat, tawfiq min Allah, mais surtout ne pas croire que moi j'ai des mérites. Moi je suis au-dessus. Ou alors parce que moi je suis né musulman de telle grande famille, mon papa était tel moun, mon maman était tel moun, autre chose. Moi je suis supérieur à celui qui est entré dans la religion il y a un an, deux ans. Mes chers frères, on peut faire 40, 50 ans, 60 ans de salat. On ne sait pas si Allah en accepte ne serait-ce un seul. On doit avoir ce tawadu', cette humilité en nous. Même si on est dans le din, on est pratiquant, alhamdulillah, que si on essaie de faire une liste de péchés, on ne trouve rien. Si on essaie de faire une liste de tout ce qu'on fait déjà comme bonne action, la liste est pleine. Mais ne jamais se dire que moi, alhamdulillah, je suis bien dans la religion, na'oudou billah. Ce qu'on fait, on fait selon ce qu'on tawfiq min Allah, selon nos qualités, nos faiblesses. Et c'est Allah qui accepte. Regardez quelqu'un, Omar ibn al-Khattab, qui disait, si je savais qu'Allah ta'ala avait accepté ne serait-ce qu'un sijda, je serais content. Qui c'est qui dit ça? Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam. Celui qui, lorsque Shaytan le voyait, il traversait, il avait peur. Omar ibn al-Khattab, celui qui, si je ne me trompe pas dans certaines versions, il a vu des prisonniers de guerre qui allaient boire du poison. Omar dit c'est quoi? Il dit c'est du poison et tout. Il a pris, il a bu. Avec la confiance en Allah, rien ne lui a atteint. Quelqu'un qui a un tel degré de iman, un tel niveau de pratique, celui qui, lorsqu'il parlait la révélation, attestait par cinq fois les opinions de Omar. Omar ibn al-Khattab, il dit, si dans toute ma vie d'action, si on me disait qu'Allah a accepté un de mes sujdats, je serais satisfait, je serais heureux. Parce qu'on ne sait pas, on fait nous, mais est-ce qu'Allah a accepté? Allah seul le sait. Les ibadats des sahaba, oui. Mais les salats des sahaba, oui. Mais la salat avec salat des sahaba, mes chers frères, est-ce qu'on peut comparer? Là, Wallah, il ne peut pas comparer. Mais Allah, il reconnaît, il connaît notre faiblesse, et on a espoir que par notre faiblesse, Allah Ta'ala ait pitié de nous. Jamais se pavaner, se dire que je suis grand cher, je suis le plus grand, respectez-moi. Non, mes chers frères, nous ne sommes rien. Et si Allah nous donne tawfiq de faire la salat, ou de jeûner, ou de sortir de le chemin d'Allah, ou n'importe quelle ibadat, mes chers frères, on ne doit surtout pas croire que je le mérite. Là, Wallahi l'azim. Même si on est alim, on est mufti, on est cheikh ul hadith, ce que vous voulez, ne pas croire que je l'ai mérité. Allah, il m'a donné parce que je mérite. Là, Wallah. Allah vous a donné par pitié, Allah vous a donné par sa bonté, parce que Allah, il est Rahman, il est Rahim, il vous a honoré. Mais sinon, on ne vaut strictement rien. Cette humilité, ce degré de tawadu doit pénétrer dans nos cœurs et nous faire comprendre que si Allah n'a pas pitié de nous, on n'ira nulle part, même avec nos a'mal. Taïb. Ça c'était le tafsir d'Ibn Uthaymin, donc, rahimahullah. Maintenant, le troisième tafsir, on peut continuer? Encore 10 minutes. Troisième tafsir de Al-Fakhr al-Razi, rahimahullah, ce verset. Mais ça, croyez-moi, c'est très compliqué. J'ai dû me relire 2 fois là devant vous, tellement c'est complexe. Mais Inch'Allah, je veux que vous voyez vraiment comment les versets du Coran sont profonds. Et Al-Fajri, qui c'est qui ne connaît pas Al-Fajri ici? Tout le monde connaît Al-Fajri. Même les enfants, ils connaissent Al-Fajri. À 12 ans, 13 ans, nos enfants, ils connaissent Al-Fajri par cœur, Alhamdulillah. Mais combien parmi nous, on a essayé de méditer, de réfléchir sur les sens de ce verset? Et comme je vous l'ai dit, si on voulait commenter ces 2 ayats, vraiment comme tous les mufassirines l'ont fait, il aurait fallu une nuit, tellement ces 2 versets sont riches de sagesse et de hikmat et d'enseignement. Allahu musta'an. Taïb, qu'Allah donne la compréhension de ces paroles, Inch'Allah. Alors, Al-Fakhr al-Razi, rahimahullah, il a donné 5 ra'is sur ce verset. Si on peut donner 2, on peut expliquer 2, 3, Inch'Allah. Ce qui est facile. Il a dit que il y a une catégorie de personnes qui ne pensent qu'au bien de ce monde. Dans ce dunya, on parle des musulmans, là. On parle d'Ahlul Iman. La seule chose qui les intéresse, c'est les biens de ce dunya. Donc, s'ils ont eu des biens de la part d'Allah, ils s'estiment heureux. Ils reconnaissent Allah nous a donné, ils sont contents. Mais s'ils ont été éprouvés par Allah, ou qu'ils n'ont pas eu des bienfaits de la part d'Allah, ils vont se révolter contre cela. Et il dit que ça, c'est les gens les plus bêtes. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ce sont, c'est, le verset, c'est pas en relation avec ça, mais c'est pour expliquer. C'est comme ces personnes qui connaissent que les apparences de ce monde et ils ne comprennent rien du akhirat. Il y a des gens qui ont iman. Ils sont dans la salat, ils sont dans les dhikrullah, dans le Quran, tout alhamdulillah. Mais ils sont heureux qu'à partir du moment où ils ont les moyens. Et lorsqu'ils n'ont pas les moyens, lorsqu'ils sont éprouvés, là ils sont malheureux. Ils n'ont pas compris le sens réel des épreuves. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala attend de nous dans la difficulté et comment Allah peut nous rétribuer dans les difficultés. Taïb. Et comme ces personnes, autre verset qui explique ça, فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَ النَّبِيِّ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ. Quand il est heureux, quand il n'a pas, il se met en colère, il n'accepte pas le destin, il n'accepte pas ce qu'Allah Ta'ala a décidé. Ça c'est un tafsir. Également, Al-Fakhr al-Razi, rahimahullah, il dit que la personne qui a eu des biens de la part d'Allah, elle ne doit pas croire qu'elle a été comblée, que c'est lui le plus riche. Et la personne qui a été, on dit pas, la personne qui n'a pas eu ses bienfaits de la part d'Allah, on allait dire qu'il était privé, parce qu'Allah il distribue comme il veut. La personne qui n'a pas eu ses bienfaits de la part d'Allah, elle ne doit pas croire qu'elle n'a rien eu de la part d'Allah. C'est parce que même quelqu'un est immensément riche, il a dit ce dunya et tout ce qu'il contient, c'est même pas comme une goutte d'eau dans l'océan. Donc quand nous voyons quelqu'un qui est riche, qui est célèbre, qui a tout, il ne faut pas se dire que ah, lui il a eu de la part, lui il a eu des bienfaits. C'est rien ça mes chers frères. L'homme le plus riche au monde, le plus grand milliardaire qui n'a pas iman, dans son cœur, il n'y a pas la tranquillité qu'il y a dans votre cœur. Parce qu'il n'a pas trouvé le chemin qui l'amène vers son créateur. Donc il y a quelque chose dans le cœur qui s'appelle Al-Fitra. Al-Fitra, c'est dans le cœur humain, il y a quelque chose qui le ramène, qui le relie à son créateur. Et avec l'influence de l'Occident, tout ce qu'il y a, la personne qui a consacré sa vie pour le travail ou pour autre chose et qui a oublié Dieu, il n'y a pas de culte du vrai Rabb. La personne là, cette personne, il y a quelque chose dans son cœur qui ne sera jamais satisfait. Même si elle adore Dieu, mais par le biais d'une autre pratique, une pratique autre que l'islam, ce cœur ne sera pas satisfait. Parce que le cœur, il reconnaît son Khaliq. Le cœur et le corps, ils reconnaissent c'est qui le vrai Rabb. Si quelqu'un va adorer d'autres qu'Allah, le corps, il suit parce que c'est le cerveau, le cœur qui dirige le corps, il le fait, le cœur, il est avec la personne. Mais il n'y a pas la tranquillité, le tamanina, la quiétude n'est pas dans ce cœur. Parce que le vrai, le haq, n'est pas dans ce cœur. Le cœur ne reconnaît pas la fitra, je ne veux pas dire des mots compliqués, l'inéité, ce qui est inné en l'homme, ce qui est inné en chaque homme, n'a pas été atteint. Ces personnes s'en sont éloignées, soit en reniant l'existence de Dieu, soit en adorant d'autres que Dieu, d'autres qu'Allah. C'est pour ça qu'on voit, exemple, qu'on a déjà dit plusieurs fois, on voit des gens qui sont riches, des grands footballeurs qui se droguent, des chanteuses qui ont des millions de dollars, ou qui font des concerts, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils sont immensément riches et célèbres, ils font n'importe quoi, ils se droguent ou ils se suicident ou autre chose. Pourquoi? Ils ont tout, amour, gloire, beauté, richesse, tout y est. Pourquoi ils se suicident? Pourquoi il a besoin de prendre de la drogue? Il a besoin d'autres sensations. Pourquoi il a besoin d'autres sensations? Il y a un vide de ce cœur qui n'est pas comblé. Il ne sait pas qu'il y a un Rabb. Il va croire qu'avec, il pense avec la marijuana ou alors avec la cocaïne, autre chose, ça va combler ce vide. Alors que si cette personne mettait son front sur le sol et il reconnaissait l'existence d'Allah, le vide dans son cœur serait comblé. Donc on voit quelqu'un qui a tout, comprenons bien que ça c'est rien. Parce que même si elle a iman, alhamdulillah, elle est dans le droit chemin, elle dépense bien nuit et jour. On ne doit pas être envieux. Parce que ce qu'elle a là, hein, regardez ça, c'est comme une goutte d'eau. Une goutte d'eau dans ce verre, c'est quoi? C'est rien. Quand je bois, il reste au moins 10 gouttes d'eau qui restent dans les parois du verre. Mais c'est même pas comme une goutte d'eau dans l'océan, mes chers frères. Donc quand quelqu'un il a eu beaucoup de bien, il ne faut pas se dire que la personne est heureuse. Mais c'est rien ça. Comparé au akhirat, c'est strictement rien. Et une personne qui n'a pas eu la richesse, qui n'est pas célèbre, qui n'est pas honoré par les gens, qui n'est pas issu d'une grande, c'est-à-dire qui n'a pas les critères de réussite que l'humanité reconnaît, cette personne ne doit pas se sentir opprimée, na'ouz billah, ou abandonnée, na'ouz billah, par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il ne faut pas oublier les ni'amat de base. Les ni'amat, on va pas aborder ce sujet, mais le jour de Qiyamah, lorsqu'Allah il posera les questions aux gens à propos des bienfaits, hein, personne ne quittera cette étape sans répondre à 5 questions. Parmi ces questions-là, il y a les biens, les richesses, mais ce n'est pas que ça. Il y a des questions sur al-badan, as-siha, sur la santé, et sur d'autres ni'amat encore. Il y a des questions à propos de la famille. Si Allah a donné une femme à une personne et des enfants, il y aura hisab dessus. Si quelqu'un a la santé, Allah Ta'ala demandera qu'est-ce que vous avez fait de votre corps, qu'est-ce que vous avez fait de votre jeunesse, de votre temps, tout ça, ce sont des ni'amat. Donc quelqu'un qui est pauvre ne doit pas se dire que Allah ne m'a rien donné. A'oudhu billah. La santé qu'une personne pauvre a, je vous assure qu'un riche qui est multimilliardaire, qui est malade, qui est alité ou paraplégique ou autre chose, n'est-ce pas, cette personne serait prête à donner tout ce qu'elle a pour avoir un jour de votre santé. Allez voir un milliardaire qui est aveugle. D'accord? Cette personne, si c'était, mais sur le plan scientifique, ça ne se fait pas encore à ma connaissance. On ne peut pas prendre un œil et mettre et on voit. Wallah, oui. Si maintenant c'est possible, dites-le moi, d'accord? Si c'était possible et qu'on disait à un milliardaire qui est aveugle que si tu veux revoir, donne toute ta fortune et je te trouve un œil, pas deux, un œil et je te le greffe et tu pourras voir d'un œil ce monde. Mais à condition, tu n'as plus rien. Tu vas habiter dans un chalet, tu seras lenteux. Je vous jure, Wallah, il a dit, ce milliardaire, il le fera immédiatement. Parce que voir, c'est un ni'amat. Et pareil pour les autres ni'amat. Un milliardaire, il est riche, il a tout ce qu'il faut, il est sourd, il donnerait la fortune, toute sa fortune, pour avoir l'audition, pour pouvoir écouter, pour pouvoir entendre, etc., etc. Il aurait des alik, des ni'amat. Donc, que la personne qui est pauvre ne soit pas ingrate. Elle a des ni'amat qu'elle ne reconnaît pas, et Allah Ta'ala questionnera chaque personne à propos de ces ni'amat. Voyez, on va faire un dernier tafsir, on en est à 35 minutes. 34 minutes. Normalement, on fait 40 minutes. Taïb, encore 6 minutes. Mais on dira un dernier qawl et puis on va s'arrêter à la taïb. Al-Fakhr al-Razi, rahimahullah, dit également, il parle d'un terme qui s'appelle al-istihqaq. Il dit que ne croyez pas, mais ça rejoint un peu de ce que Ibn al-Qayyim a dit, ne croyez pas que quand Allah il donne à quelqu'un, que Allah il donne parce que cette personne l'a mérité. Et que si vous n'avez pas eu ces bienfaits, c'est qu'Allah ta'ala, il a vu que vous ne méritez pas, non. Pour le iman, pour le tawfiq, pour l'accomplissement des bonnes actions, oui. Si je vois mon voisin, il fait tahajjud et tout, Allah l'a choisi. Et moi, je ne le fais pas parce qu'Allah ne m'a pas choisi, je n'ai pas les qualités. Donc, je vais développer ces qualités et demander, oh Allah, accepte-moi comme tu as accepté telle personne. Là, oui. Mais pour les richesses de ce monde, ce n'est pas un mizan. Il a eu, il le mérite, Allah l'aime, non. Moi, je n'ai pas eu, parce qu'Allah ne m'aime pas, il m'a délaissé, non. Taïb ? Ça c'est donc, ça c'est à peu près, ça rejoint ce que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, avait dit. Taïb, et il dit que parce qu'il est possible qu'Allah ta'ala, il donne à quelqu'un pour l'éprouver, d'accord ? Et qu'Allah ta'ala, il ne donne pas à d'autres personnes pour une sagesse divine, ou qu'Allah, il peut donner à quelqu'un pour l'enfoncer. Pour certains koufars comme ça, lorsqu'ils n'ont pas écouté les prophètes, qu'est-ce qu'Allah ta'ala, il a fait ? Allah ta'ala a ouvert les portes du khayrat. Il y a un verset du Coran. Le verset c'est quoi ? Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Quand ils n'ont pas écouté et tout, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a fait ? Allah Ta'ala a ouvert les portes de toutes choses. Ces gens, ils ont eu tous les ni'amats. Alors quand ils ont eu le bien, les richesses et l'honneur et tout, ils disent, on n'a pas écouté le prophète, malgré ça, on a plein de choses, c'est qu'il n'y a aucun problème. Mais Allah Ta'ala, il donne pour enfoncer la personne. Et lorsqu'Allah Ta'ala, il prend d'un coup. Il détruit la personne d'un coup. Qu'Allah nous protège. Taïb, dernier tafsir. Et puis on va s'arrêter à là. Al-Fakhr al-Razi rahimallah dit également que d'une manière générale, c'est pas tout le temps, mais d'une manière générale, quand une personne a eu des bienfaits de la part d'Allah, elle a été comblée de richesse pour rester dans le domaine de la richesse. Très souvent, la gestion de ses biens, ça c'est dans le meilleur des cas, hein, quelqu'un qui est vraiment muttaqi dans le droit chemin, la gestion de ses biens prend tellement de temps à cette personne que cela va empiéter sur le temps passé de l'ibadat. Quand quelqu'un a des buildings, des grandes entreprises, etc., est-ce qu'elle pourra s'adonner autant de moments de sa journée pour faire l'ibadat d'Allah ? C'est difficile. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Maintenant, dans les pires des cas, une personne a eu beaucoup d'argent, tellement ça lui prend du temps, namaz, il ne peut pas mener. Il dit, si je quitte le magasin, qui sait ça, il a 30 employés, mais il a 50 clients, il rentre tous les 30 minutes. Qui gère ? Si ce n'est pas moi, là-haut, il gère les employés, il donne des directives. Parfois, c'est vrai. Est-ce que la personne peut être ma'azour, certainement, que si elle quitte son magasin, ben les employés vont voler ou autre chose. Bon, là, on peut avoir un fatwa que la personne fait namaz dans son magasin. Mais même dans ce cas où elle a envie de faire leur salat, cette personne, dans son cas, elle a envie de faire leur salat de jama'a, mais par rapport à la gestion de son magasin, elle ne peut pas venir. D'accord ? Il y a que, donc, très souvent, quand on a des bienfaits, ben on a moins de... Soit on ne consacre plus de temps au ibadat, soit le temps consacré sera beaucoup moindre. Il y avait un récit de Sahaba dit que même si j'avais un magasin à la porte de la masjid et tous les revenus je donne en sadaqa, hein, je ne prendrai pas. Je préfère rester dans une situation où je n'ai rien, mais je peux m'adonner au culte, au ibadat comme il le faut. Il dit donc, alors comment peut-on dire qu'une personne qui a eu les bienfaits, c'est quelqu'un qui a été favorisé par Allah, alors que plus qu'on a de ce dunya, moins on peut faire les ibadat. Alors que la personne qui n'a pas autant, ben elle peut faire ses 5 salats avec jamaat, elle peut jeûner le lundi, jeûner le jeudi, elle peut passer 3 heures de temps la nuit dans le qiyam ul-layl. Parce que la personne qui vend aussi, il n'a pas besoin d'être magasin 8 heures ou panneau, il peut aller, son travail, 2 heures de temps par jour, 3 heures de temps par jour, ben il peut redormir un peu 8 heures, 9 heures. Parce que si 3 heures du matin, la personne réveille fait hajjud. Le matin, pour faire, je peux redormir un petit peu tranquille, ce travail, même si c'est pour avoir 1000 euros par mois, mais l'autre qui gagne peut-être 7-8 000 euros par mois, ben lui, il ne peut pas se permettre de se réveiller plus tôt, parce que le matin, il va travailler de 7 heures comme un malade jusqu'à 19 heures. Taïb, impossible de faire rosa, de jeûner lundi, jeudi, il y a tellement de travail. Taïb, etc., etc., impossible de penser qu'il allait hajj tous les ans, ou aller umrah, ou je ne sais quoi, parce que son travail lui prend tellement de temps. Donc, parfois, quand on a peu de biens, c'est également un ni'amat, ça nous permet de consacrer plus de temps à l'ibadat. Et le jour de qiyamah, mes chers frères, qu'est-ce qui compte dans le mizan, dans la balance ? Est-ce que c'est l'argent cumulé ou les sawab cumulés ? C'est les a'mal, les actions qu'on a faites. Donc si on avait moins de revenus et bon, moins de pouvoir d'achat ou autre chose, mais qu'on a fait plus de bonnes actions, ben, qui c'est qui sera gagnant le jour de qiyamah ? C'est celui qui a consacré plus de temps dans les a'mal, dans les bonnes actes. Donc, Al-Fakhr Razi fait comprendre bien, à travers ces différentes explications dont il y avait 5, on a résumé à 3, il fait bien comprendre que, mes chers frères, ne nous laissons pas tromper par l'apparence de ce dunya. Ne nous laissons pas tromper par l'apparence de ce dunya, quelqu'un qui a, quelqu'un qui n'a pas, comme on a dit. Et également, lorsqu'on a un bienfait, Allah attend quelque chose de nous, qu'on soit reconnaissant, qu'on fait preuve de choukr. Et lorsqu'on est éprouvé, là aussi Allah Ta'ala attend quelque chose de nous, qu'on fait preuve de sabar, qu'on s'en remet à Allah, et que nous comprenions bien que dans n'importe quel cas de figure, tout ce qui arrive c'est de la part d'Allah, pour une sagesse, et Allah Ta'ala attend quelque chose de spécifique de ma part. Donc, en conclusion, il dit également que un musulman intelligent, c'est celui qui se remet régulièrement en question. Quand il est malade, il se dit que je suis malade, Allah m'a éprouvé par la maladie, Allah il attend quelque chose de moi. Quelle doit être ma réaction? Est-ce que je dois me plaindre? Pourquoi moi les malades, il vient namaz, mais malade, mon voisin, il ne vient pas jamais namaz, il passe son temps, il regarde télé, il fait toutes les affaires, il n'est pas malade, il n'est pas normal. Non, si Allah m'a éprouvé par la maladie, c'est qu'Allah il attend une réaction de ma part, et Allah il attend quelque chose de spécifique de moi, je fais tout pour réussir l'épreuve. C'est ça le mot important, réussir l'épreuve de la maladie, réussir l'épreuve de la pauvreté, réussir telle difficulté. C'est ce qu'Allah il attend de nous. Je pense que c'est suffisant. On a développé comme on a pu Allah Ta'ala donne tawfiq de comprendre maintenant. Et il y avait une parole dans Riyad al-Salihin qui, dans d'autres hadiths, je pense qu'on va garder ça pour la prochaine fois, mais en résumé, il dit que face à l'épreuve, il y a 3 catégories de personnes. 4 catégories. La première personne, il est éprouvé par la maladie ou par la pauvreté, elle n'accepte pas. Elle remet en question le destin et tout et tout. La personne peut faire kufr. Pourquoi Allah il a fait ça? Ça c'est kufr ça, mes chers frères. On peut être aussi pieux qu'on veut, on peut être aussi namazi, grande barbe et tout, mais si on a été éprouvé par une maladie ou par un problème dans le travail ou autre chose, on dit pourquoi moi ou Allah, pourquoi pas d'autres? Ça c'est kufr ça, mes chers frères. Parce qu'on a remis en cause la décision d'Allah Ta'ala, c'est comme si on dit qu'Allah est zalim. Ça c'est le premier cas de figure. Ça c'est Allah Musta'an, c'est la pire des choses. Allah nous protège. Autre cas de figure, et ça c'est quand j'ai lu ça dans le commentaire de Sahihain, dit subhanallah. Quel ilm Allah Ta'ala donne à ses ulama pour commenter les hadiths de la sorte. Et le deuxième cas de figure, quelqu'un est éprouvé. D'accord? Elle accepte l'épreuve. Elle fait preuve de sabr, mais intérieurement, elle est attristée. Et elle se dit, j'aurais souhaité ne pas être éprouvée par ça. Elle a au moins le mérite de ne pas remettre en cause le destin. Mais intérieurement, elle ne voit pas la hikmat. C'est-à-dire, elle a fait un pas par rapport à l'autre. Alhamdulillah, c'est pas le même cas. Mais elle ne voit pas la sagesse d'Allah dans l'épreuve. Elle fait preuve de sabr. La personne ne va pas crier son malheur, ne va rien dire. Elle est sabir. Mais la personne est sabir ma'al karahiya, avec une tristesse dans le cœur. Et elle aurait aimé que, j'aurais aimé que ça ne me touche pas à moi. Mais si Allah l'a envoyé, bon, j'accepte, mais j'aurais aimé que ce malheur ne me touche pas. J'aurais préféré être riche. J'aurais préféré avoir la santé. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, c'est la personne qui fait preuve de arida. Elle accepte ce qu'Allah lui a envoyé comme épreuve. La personne accepte et elle sait que ça vient de la part d'Allah et elle a la réaction qu'il faut. Apparemment, c'est ça le meilleur. Oui, non. Apparemment. Mais non. En commentaire, dit qu'il y a une quatrième catégorie. Ça, c'est vraiment, Allahu a'lam, parce que dans ce dunya, il existe. C'est à l'époque peut-être des sahaba, dit celui qui remercie Allah de les difficultés. Il y avait un hadith pour ça, il dit, j'ai pas le hadith en tête. Il dit que les gens d'avant, ils étaient aussi heureux dans les difficultés que vous l'êtes dans les bienfaits. Parce que ces gens-là, ils savaient, c'est les sahaba, peut-être les tabi'in, peut-être à notre époque, il y en a un sur 6 milliards, je ne sais pas. Quand Allah, il l'éprouve, il remercie Allah. Parce qu'il sait que lorsqu'Allah éprouve quelqu'un, qu'est-ce qu'Allah il fait? Il enlève, et que la personne fait preuve de patience, Allah enlève les péchés, Allah il vous donne des bonnes actions, des récompenses, et Allah augmente votre grade. Les hadiths, pour ça me dit que chaque personne a un grade. Allah Ta'ala a décidé que cette personne aura tel degré un jour. Mais les actions ne sont pas suffisantes. La personne ne fait pas assez de bonnes actions. Donc Allah va élever son grade par les difficultés, par les épreuves. Dis donc, cette quatrième catégorie de personnes, ça c'est la personne qui a le iman le plus complet. Quand elle est éprouvée, elle remercie Allah de l'avoir éprouvée. C'est pas qu'elle aime avoir mal, hein? Non. Elle remercie Allah d'être éprouvée, sachant quelles sont les récompenses qu'il y a à travers une difficulté lorsque le musulman adopte la réaction voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah t'aime tawfiq de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah nous donne la réelle vision des choses, qu'Allah enlève le voile qu'il y a sur nos yeux. Vous savez, avec cette crise économique sans précédent, avec cette crise économique où on essaie de faire comprendre aux gens quels sont les secteurs où il faut investir, quelles sont les précautions à prendre pour économiser, etc., etc., on fait tout pour que l'argent soit le centre des discussions, pour que le critère de réussite, c'est celui qui a eu un bon travail et qui a des revenus. D'accord ? Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a réussi. C'est le message qu'on fait passer même à nos enfants à l'école. On dit que tu travailles bien, tu auras des diplômes, tu auras un bon travail et tu seras riche, tu vas vivre heureux, tu auras plein de choses, tu auras tout ce que tu voudras. Ce aqida-là, c'est cette croyance-là qu'on inculque dans le cœur de nos enfants. Mais nous, comme on a grandi avec ça, on a ce voile devant nos yeux. Ce voile qui se limite au dunya, à 60 ans ou 70 ans de ce dunya, de la vie qu'on va vivre. Mais si ce voile était levé, on voyait qu'est-ce qu'il y a de l'akhirat, on comprendrait que ce que le prophète a dit vraiment, que ad-dunya sijnu lil-mu'min. Ce dunya, c'est une prison pour le croyant. Mais c'est un paradis pour celui qui n'a pas iman. Pour celui qui n'a pas iman, la vie s'arrête là. 60 ans, c'est 60 ans où il faut tout avoir. Parce qu'après, il n'y a plus rien. Et on comprendrait mieux que le prophète a dit que kun fi dunya ka annaka gharib. Sois sur ce dunya, vis de ce dunya, comme si tu étais un étranger. Ou abiru sabil, ou quelqu'un qui traverse un chemin. Quand quelqu'un traverse, ou alors l'exemple plus qu'on comprend mieux, vous allez à Umrah, vous prenez l'avion Réunion Maurice Dubaï, vous arrêtez à Dubaï, d'accord, votre avion il arrive, je vous dis désolé, je connais bien, vous arrivez à Dubaï 4h du matin, votre vol est à 16h, prenez Saoudia, 16h Dubaï Jeddah, vous restez 18h à l'aéroport de Dubaï, là on arrive, on regarde, il y a tellement de choses, ils vendent tout là-bas, est-ce qu'une personne intelligente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter un petit truc à manger, un sandwich, une boisson, un peu d'eau, quelque chose comme ça. Mais la personne qui n'a pas eu cette intelligence, qui a le voile devant ses yeux, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va voir qu'on vend des voitures, il va acheter une voiture. Il va investir, une personne propose d'investir à Dubaï immobilier, il va acheter un bâtiment. Il achète la voiture, il finit acheter, il vend tel chocolat, tel biscuit, il finit acheter un conteneur. Puis d'un coup, il y a l'annonce, tel passager est appelé à embarquer. Elle m'a fini acheter l'avion, m'a fini acheter la voiture, m'a fini acheter la maison, m'a fini acheter un conteneur de manger, là il en bas. Mais c'est comme ça l'arrêté cette dunya, mes chers frères. On est là pour 60 ans, c'est quoi par rapport à l'éternité? Je dirais même pas une goutte d'eau dans l'océan. C'est rien. Ce sont là deux notions complètement opposées. Une vie limitée, et là aussi une vie sans limite. Alors si on a des difficultés dans ce dunya, si on voit que le péché est tellement présent, et le péché qui touche le plus de personnes de le jour, c'est en rapport avec Al-Jins, tout ce qui a un rapport avec les passions, le zina. Wallah musta'an, le zina est tellement présent de nos jours, vous ne pouvez pas faire un coin de rue du centre-ville sans que vous ayez à baisser votre regard au moins 5 ou 6 fois. C'est-à-dire que les femmes de nos jours, elles mettent tellement en valeur, Wallah musta'an, fi al awra, ce qu'elles doivent cacher, que la personne qui ne tombe pas de le zina, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment quelque chose de remarquable. La plupart des péchés à notre époque sont en relation avec les femmes, c'est-à-dire le zina, et en relation avec l'argent. Gagner de l'argent à tout prix, avec des intérêts de n'importe quel mu'amala. Donc si on comprenait que c'est 60 ans, c'est 70 ans, c'est rien par rapport à l'éternité, et que je dois préparer mon éternité dans ce laps de temps, alors tous ces appels vers le haram, ça n'aurait aucun effet sur nous. Mais il faut qu'on demande à Allah de lever le voile sur nos yeux et qu'Allah nous donne basir à la vision du cœur comme les sahaba. Qu'on comprenne le dunya comme les sahaba. Qu'on comprenne le akhirat comme les sahaba. Et qu'on comprenne c'est quoi adorer Allah comme les sahaba. Qu'Allah t'en tawfiq de comprendre, de faire amal, de propager à nos mères et à nos sœurs, à la maison ma tawfiq illa billah. Et je rappelle, encore une fois, c'est la première fois qu'on dit ici, on a, inshallah, un grand projet le dimanche 5 juillet 2009. On a un projet qui est à l'attention des jeunes entre 15 et 25 ans. D'accord? Même si quelqu'un a 27 ans, bien sûr, on peut venir. Juste qu'on ne veut pas, ce n'est pas pour les tchatchas, parce que les conversations seront plus pour les jeunes. Alors, c'est une première. On a un projet un peu différent des programmes habituels pour les jeunes. On va faire une rencontre pour les jeunes, garçons et filles, bien sûr, dans lesquels on va donner la parole exclusivement aux jeunes. On sera un petit groupe de halim, 3 ou 4 personnes qui seront présents à cet endroit en ce jour, et on aura 2 ou 3 de temps devant nous et nous serons à l'écoute. Déjà, on a ouvert un site, une adresse internet où on récolte les questions. Et il y a des jeunes qui nous envoient déjà des questions très complexes, des questions existentielles sur comment pratiquer la religion à notre époque, comment fait telle chose avec le contexte, etc. Donc, ce sera le cas. Et comme on a vu dans le dernier IADJ à Saint-Pierre, que les jeunes ont beaucoup de questions. On a fait circuler une boîte à questions en une heure, temps et demi. On a eu une boîte de chaussures pleine du côté des garçons et une boîte pleine du côté des filles. Et on a répondu même pas à 10 ou 15 questions. On voit que les jeunes, ils ont l'envie de revenir vers le dîn, mais c'est difficile. Ils sont tellement plongés dans des difficultés avec le mahol, avec le bi'a, qu'ils aimeraient trouver cette corde pour se raccrocher au dîn d'Allah. Donc, à travers ce programme, Inch'Allah, on va essayer d'apporter des éléments de réponse hein, à nos jeunes. Et ça, ce sont les parents de demain. Quand on vise la population de 15-25 ans, dans 10 ans, ce seront eux les parents de demain. Si eux, ils ont compris l'importance du dîn, Inch'Allah, ils le transmettront lorsque eux, ils seront parents aux futures générations. Donc, faites beaucoup de doigts qu'Allah Ta'ala nous donne le stiqam, la sincérité et la réussite de ce projet, et que par l'intermédiaire de ce programme, nos jeunes, ils comprennent la réalité du dunya, la réalité du akhirat, et l'importance de se retourner vers Allah, et de en plus de travailler, de faire les études et autres choses, de consacrer le but, l'objectif reste, rechercher le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce programme aura lieu le dimanche 5 juillet 2009, à 14h, à la salle polyvalente de la mairie. Hein, donc là, on ne va pas mettre des affiches encore, parce que comme il y a un programme ce dimanche à Plaine des CAF, on va laisser le programme se terminer, au moins les gens comprennent bien c'est quoi, on ne maille pas de les programmes. Et la semaine d'ensuite, là on a diffusé sur internet, dans une dizaine de jours, on va mettre des affiches dans les mosquées. Et pour participer au programme, il faudra absolument s'inscrire sur internet, pour qu'on ait une question logistique, pour qu'on sache combien de personnes ils vont venir, et combien de chaises, etc., et tout ce qui concerne le buffet, etc. On va accueillir combien de personnes. Mais mes chers frères, ce programme est important parce que ce sera l'occasion pour les jeunes d'exprimer leurs difficultés dans la religion. Qu'est-ce qui les empêche de pratiquer? Quels sont les problèmes qu'ils affrontent tous les jours? Et Inch'Allah, qu'Allah nous tawfiq d'apporter les éléments de réponse. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakum khair.